il est 16h sur France Culture. Nous retrouvons tout de suite Nicolas Martin pour parler de l'état de la planète.
Exactement, Anne de Biran, on va parler de planète comme tous les mardis et aujourd'hui précisément de biodiversité. Un tiers des espèces végétales et animales de notre planète sont menacées. C'est le constat qui ressort du dernier rapport de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Toutes les catégories, ou presque, sont en augmentation sur les 20 dernières années. Plus 10% de mammifères menacés, plus 117% de plantes, plus 291% de reptiles et plus 1564% de batraciens. Sommes-nous donc à l'orée d'une nouvelle extinction de masse ? Biodiversité vers une sixième extinction de masse, c'est le problème épineux que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ce problème, nous sommes ravis d'accueillir Gilles Boeuf, bonjour.
Bonjour.
Biologiste, océanographe, ancien président du Muséum d'Histoire Naturelle et conseiller scientifique pour la biodiversité et le climat auprès de la ministre de l'Environnement. Voilà un sacré CV. Nous devrions être en duplex dans quelques instants depuis Lausanne avec Jean-Christophe Vier, qui est directeur adjoint du programme mondial des espèces de l'UICN, qui vient donc de publier son rapport sur la biodiversité. Mais manifestement, nous avons quelques petits problèmes de jonction, donc nous retrouverons Jean-Christophe Vier plus tard. Donc je me retourne vers vous, Gilles Boeuf, pour cette première question, pour entrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut parler, oui ou non, d'une sixième extinction de masse après les cinq grandes premières extinctions, la dernière remontant déjà à il y a 65 millions d'années?
Tout à fait. Alors en fait, depuis 800 millions d'années, on en a trouvé à peu près 60 crises d'extinction, dont 5 majeures. Et la question qui a été posée, et surtout présentée par une équipe de géologues américains d'ailleurs dans la revue Nature en 2011, c'est: sommes-nous en train de mettre en place les conditions d'une possible sixième grande crise d'extinction? Et surtout la question aussi, quand on étudie celle du passé, c'est de voir comment l'actuelle pourrait ressembler à celle du passé. Je pense que c'est pas comparable. Alors, la question aujourd'hui qui est posée, c'est vrai que depuis, avec ce terme d'anthropocène qui a été proposé, c'est-à-dire la fraction de l'histoire de la Terre durant laquelle le plus puissant moteur de l'évolution du système, c'est la présence de l'humain, que les géologues refutent beaucoup d'ailleurs, parce que c'est trop court pour un géologue, puis c'est pas une ère géologique. Une ère géologique, effectivement, elle affecte tout.
Donc là, on est... Le Conseil des géologues vient d'approuver une première fois de façon consultative l'appellation d'anthropocène, on en a parlé autour de cette
période. J'en doute, parce que j'ai revu des géologues récemment qui me disent que c'est pas possible, pour des raisons de... Effectivement, c'est trop court, puis surtout, c'est pas une ère géologique. Par contre, le terme est très utile, je trouve, il est très imagé, il représente bien ce qu'on fait aujourd'hui. Donc sommes-nous effectivement en train de créer ces conditions? Le terme extinction me gêne toujours un peu parce que, par exemple, moi qui suis océanographe, si on regarde depuis 800 ans, combien d'espèces de l'océan ont disparu? C'est 20. Alors j'écoutais, il y a un petit problème. Quand je dis ça à un ministre, on me dit, bah, écoutez Gilles, où est le problème? Vous connaissez combien d'espèces dans l'océan? 250 000. Non, ce qui est aujourd'hui très important, c'est l'effondrement du nombre d'individus des populations végétales et animales, qui pourraient à terme amener à une extinction.
Donc, c'est pas tellement une question de variété. On va revenir, redéfinir ce qu'est la biodiversité, mais c'est pas tellement une question de variété, mais c'est l'effondrement des populations au sein de chacune des espèces.
Voilà. Et vous le disiez à l'instant, les amphibiens plus menacés que d'autres parce que les mares s'en vont. C'est leur milieu qu'on détruit en fait. Puis ils sont sensibles aussi à la pollution plus que d'autres.
Les milieux humides qui sont des milieux très fragiles.
Tout à fait, bien sûr. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la question mérite d'être posée. La réponse est que si nous continuons comme on le fait aujourd'hui, oui, on peut effectivement arriver à une telle situation. On n'en est encore pas là, donc on espère qu'on va tout mettre en œuvre pour qu'effectivement, on puisse encore interdire ceci.
Nous sommes avec Jean-Christophe Vier, alors non pas en duplex, mais au téléphone pour le moment, en attendant que la liaison duplex se retrouve. Bonjour Jean-Christophe Vier.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous au téléphone. Alors, on va discuter quand même un peu avec nous, même si je pense que ça risque d'être un petit peu inconfortable pour vous en attendant que le duplex se rétablir. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez entendu? Vous êtes d'accord, vous, ou non, avec ce terme de sixième extinction de masse dont on verrait le début, dont on assisterait au début en ce moment?
Je partage tout à fait l'opinion de Gilles Boeuf. L'extinction, donc l'UICN, on documente un petit peu l'extinction depuis cinquantaine d'années. Et on arrive à, voilà, 20, disait Monsieur Boeuf, pour les océans. On a moins de 1000 espèces qui ont disparu depuis l'an 1500. Donc ce qui est préoccupant, l'extinction, c'est vraiment ce qu'on cherche absolument à éviter. Mais ce qui est particulièrement préoccupant, c'est le déclin massif, même d'espèces communes, enfin de la diversité du vivant. Donc, il y a une étude il y a quelques années qui a estimé qu'on avait perdu la moitié des populations animales en deux générations humaines, en 40 ans. Donc, je pense que le restreindre la crise de la biodiversité à l'extinction, c'est, à mon sens, ce serait à mon sens une erreur.
Mmh. C'est-à-dire que finalement, la crise de la biodiversité, elle est plus vaste que ce que pourrait être juste une extinction de masse. Il faut rappeler aussi que par rapport aux autres extinctions, on parle d'extinction de masse quand on arrive à des taux de disparition très 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 élevés, au-delà de 80-90%, je dis bluff.
La définition telle qu'elle a été donnée en 2011, c'est la disparition d'au moins les trois quarts des espèces vivantes dans l'océan et sur les continents en un temps court. Et c'est là qu'on peut discuter pour rentrer longtemps. C'est quoi un temps court en géologie et aujourd'hui?
Le magazine Science a tranché il y a peu, hein, dans un article publié la semaine dernière, et un article qui s'appuie sur la disparition des grands prédateurs, donc dans l'océan principalement, à cause de la chasse et de la pêche, en disant que ça a un effet catastrophique parce que ça se répercute sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, Gilles Boeuf.
Tout à fait. Il y a eu un article sorti dans la même revue il y a à peu près un an, en août l'an dernier, qui montrait le rôle de super prédateur de l'humain. Il est très différent des prédateurs classiques, parce qu'il s'attaque justement soit à des prédateurs, soit à des animaux de terminaison de bout de chaîne, donc de gros animaux, qui jouent un rôle important dans les écosystèmes. Ça, c'est très particulier et c'est très préoccupant.
Jean-Christophe Zier, est-ce que vous pouvez nous dire, donc du coup, alors effectivement, on va réfuter pour le moment ce terme de sixième extinction de masse, mais est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le contenu de ce rapport de l'UICN? Qu'est-ce qui est le plus inquiétant selon vous?
Non, moi, je réfute pas du tout l'expression sixième extinction. Je pense qu'on observe effectivement au niveau d'un temps géologique, on s'aperçoit qu'il y a une disparition de la biodiversité à un rythme relativement effrayant. Hein. On parlait des amphibiens tout à l'heure. Il y a un déclin qui est dramatique et là on perd effectivement beaucoup d'espèces. Alors on a fait un rapport, c'est quelque chose qu'on fait depuis une cinquantaine d'années. Donc on met une liste, ce qu'on appelle la liste rouge des espèces menacées.
Tous les 4 ans.
Régulièrement. Non, on la met à jour plusieurs fois par an. Et à peu près 3 fois par an. Donc elle est en continu mise à jour. Et à chaque mise à jour, il y a des nouvelles données qui s'ajoutent. Il y a des groupes qui sont réévalués. Donc on fait un petit bilan en fonction de ce qu'on a observé. Alors on met en avant et les mauvaises nouvelles qui sont malheureusement les plus nombreuses. Et puis on essaie quand même de trouver des causes de réjouissance. Donc on met aussi, ce qui va mieux, comme ce qu'on a expliqué il y a quelques jours, le panda par exemple. Voilà, une espèce quand
le
même
panda géant chinois.
Icône de la conservation de la nature. Une organisation bien connue, c'est approprié comme logo. C'est une espèce qui va mieux qu'elle n'allait il y a quelques années. Donc on essaye de faire ce bilan-là, mais globalement, on observe un déclin, il est documenté. Ce qui est intéressant, ce qu'on arrive à faire avec cette liste, qu'on a fait il y a quelques années aussi dans un article qui était publié aussi dans Science, c'était de montrer qu'en fait, avec des actions de conservation, on a réussi à bien réduire sur certains groupes, notamment les ongulés, hein, donc toutes les antilopes, éléphants, girafes. On a réussi à réduire le rythme de disparition des espèces par un facteur 8. Parce qu'on nous dit souvent, finalement, la conservation, ça marche pas. Ben, si ça marche, alors, un petit peu par défaut, on arrive à réduire le déclin, on n'arrive pas encore à une inversion totale, mais voilà, c'est ce qu'on essaye de faire régulièrement.
Ce que montre aussi, puisque vous en parlez à l'instant, Jean-Christophe Vier, c'est quelques bonnes nouvelles. Vous parlez du panda géant dans votre liste, il y a la chauve-souris géante aussi, un gecko de Malaisie. Ce que ça montre, c'est que surtout, on peut avoir une action de conservation, de préservation, avec un effet réel sur le maintien d'espèces qui étaient très très en danger ou qui étaient vraiment proches de l'extinction. Et c'est plutôt ça la bonne nouvelle, plus que celle juste du symbole du panda géant.
voilà, le message qu'on essaie de faire passer, c'est un peu celui-là, parce que généralement, on nous dit, bon, bah, c'est fichu, qu'est-ce qu'on peut faire, finalement, rien ne marche. Je dis, mais si, ça marche. Il y a plusieurs choses qui font que ça marche. Un, on connaît quand même dans un... pour un grand nombre d'espèces, alors pas toutes malheureusement, mais on sait quelles sont les causes de disparition majeures, on arrive à savoir où les espèces sont menacées, qu'est-ce qui les menace, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour inverser ce déclin. Après, c'est une question de trouver des bons acteurs locaux, et partout dans le monde, il y a des milliers d'ONG qui essaient de préserver une portion de forêt, qui essaient de mettre en place des méthodes de pêche durable, ainsi de suite. Donc il y a ces gens-là. Et puis ce qui est déterminant, c'est la volonté politique. C'est-à-dire que s'il y a une volonté affichée de mieux gérer les parcs, de contrôler le trafic, ainsi de suite, on arrive à avoir des résultats tangibles. Mmh. Donc voilà, il faut un ensemble d'actions bien coordonnées. Il faut que toute la chaîne soit mise en place pour arriver à avoir... Et puis il y a quand même le facteur humain qui, lui, voilà. Je disais tout à l'heure, en deux générations, on a perdu la moitié des espèces, mais on a aussi extrait trois fois plus de ressources naturelles. Voilà, qui a 40 ans. Donc il y a un rythme d'extraction des ressources qui est relativement effrayant.
Alors justement, puisque vous l'évoquiez, c'est quoi la raison principale de ces disparitions, de ces extinctions? On dit le réchauffement climatique comme ça, comme une espèce de raison lointaine un peu générale, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons beaucoup plus concrètes que vous pouvez nous expliquer, Jean-Christophe Vier?
Alors, pour chaque groupe d'espèces, il y a la cause majeure, c'est la disparition de leur habitat, la disparition des forêts, la disparition des récifs coralliens, voilà.
La disparition des zones humides, on en parlait avec Gilles Boeuf à l'instant.
Voilà, l'assèchement des zones humides, donc l'habitat disparaît, les espèces disparaissent après. Donc ça, c'est la cause pour toutes les espèces. Et généralement, c'est pratiquement toujours une origine humaine. Après, ça varie selon les groupes. Vous avez des groupes qui sont vraiment ciblé par l'homme par la chasse, par la pêche, donc les grandes espèces, généralement tout ce qui est gros aujourd'hui, qui a beaucoup de viande, ben voilà, ça disparaît en priorité. Donc ça, la surpêche ou la chasse ciblée pour certains groupes, les singes par exemple, la deuxième cause de disparition, c'est la chasse. Après, vous avez les
grands singes, hein, pour préciser, Jean-Christophe Vier, les grands singes sont particulièrement menacés et sont très en danger d'après le rapport que vous venez de publier.
Pas que les grands singes. Alors les grands singes, oui, parce qu'on les a réévalués et que c'est nos plus proches cousins, donc ils sont pratiquement tous au bord de l'extinction, donc avec des déclins relativement énormes. Mais tous les singes, en règle générale, ou les lémuriens, vous avez plus de 90% des espèces de lémuriens sur un peu plus d'une centaine qui sont menacées de disparition. Donc il y a les espèces envahissantes aussi. Et puis les changements climatiques, je dirais, c'est la cause supplémentaire. Alors ça s'est pas encore matérialisé, mais on sait que ça va avoir un impact massif qui va se rajouter aux causes déjà existantes.
Il y a une étude australienne qui montre que depuis le début des années 90, la Terre a perdu un dixième de ses espaces sauvages. Vous dites que c'est la première cause, Gilles Boeuf, une réaction justement à ce recul progressif des espaces sauvages qui sont la première cause.
Je suis tout à fait d'accord. On rappelle, c'est pas une disparition d'espèces, c'est une disparition du nombre d'individus dans les espèces. Alors oui, bien sûr, la première cause, c'est les écosystèmes qui s'en vont. On les détruit. Il y a une seconde cause qu'on oublie beaucoup, c'est la pollution, qui est souvent liée à la première aussi. Là, je rentre de l'Arctique et vous voyez des oiseaux fabuleux qui n'ont jamais vu d'humain, hein. Une bernache nonnette, un goéland bourgmestre. Et quand vous analysez leur chair, ils sont bourrés de contaminants, de produits qu'on mettait sur nos champs il y a 70 ans. Donc ça, c'est un vrai drame aussi. Surexploitation, donc les pêches, bien sûr, et la forêt tropicale qui s'en va. On oublie la dissémination d'espèces. L'UICN s'intéresse beaucoup aux espèces invasives, c'est un vrai problème. Et le climat n'est que ensuite. Je voudrais pas qu'aujourd'hui, bien sûr, il faut qu'on se préoccupe du climat. Mais je ne voudrais pas qu'au nom du climat, on cache tout le reste. Le climat, par exemple, la surpêche du thon rouge en Méditerranée n'a rien à voir avec le changement climatique, hein. On a plein d'exemples comme ça. Donc je suis entièrement d'accord, ça c'est très important. Et toutes ces causes-là font que ces écosystèmes s'appauvrissent. Et d'ailleurs, l'endroit sur la planète où on a perdu le plus d'individus dans les populations, ce sont les grands champs de monoculture d'organismes OGM dans les plaines de l'Argentine. 69%. Les eaux douces aussi ont beaucoup perdu. Et autant sur mer que sur terre, on est environ entièrement d'accord de 50-51%. Sur 70 ans, cette accélération des processus est vraiment, vraiment très préoccupante.
Il y a un autre, vous l'évoquiez à l'instant, Gilles Boeuf, Jean-Christophe vient en parler aussi, un autre point sur lequel j'aimerais qu'on discute un peu, parce qu'on en parle moins souvent, c'est le problème des espèces envahissantes, donc. Gilles Boeuf.
Alors en gros, si on prend les plantes, parce que souvent on s'intéresse aux plantes, en gros on connaît 350 000 espèces de plantes sur la Terre. Une sur 1000, 350 pose vraiment problème. Hein. Les jussies chez nous en France, le sénessant du Cap, la chassaine d'eau, le myconia à Tahiti. Hein. Et c'est vrai que introduite de façon volontaire ou involontaire, on a un grand cas en France, par exemple, de laine de mouton, hein, qu'on introduisit en France pour les traiter dans la région de Montpellier, qui ont vu une dissémination d'espèces d'Afrique du Sud dans des conditions absolument incroyables, il y a à peu près 150 ans, et qui nous posent des problèmes aujourd'hui. On voit aussi des cas comme, par exemple, la fameuse Colerpa taxifolia, la bien nommée, en Méditerranée, qui a vraiment été un grave problème, puis qui s'étiole un petit peu aujourd'hui.
L'algue, vous voulez dire l'algue qui avait fuité de l'aquarium de Monaco.
Voilà, tout à fait, qui était venu comme ça. Et là, on en a une deuxième, Colerpa, qui est la Racemosa, qui a l'air plus problématique aujourd'hui que Taxifolia, qui s'est à peu près maintenue. Souvent, je vous dis, sur ces plantes qui deviennent envahissantes, une sur mille est capable, effectivement, de générer, sur du long terme, de vrais problèmes environnementaux.
Voilà, puis Jean-Christophe, je me retourne vers vous. Il y a les plantes et puis il y a les animaux et les insectes, notamment en France, avec, par exemple, le problème du frelon asiatique dont tout le monde a entendu parler.
Oui, c'est un peu partout, c'est un problème général. Alors qu'il y a longtemps, on a considéré que les espèces envahissantes étaient un problème pour les îles. Effectivement, c'est là qu'il y a eu beaucoup d'extinctions d'espèces dues à l'introduction de plantes, comme ça a été dit, mais aussi d'animaux, hein, des chèvres, cochons, chats. Hein. Nous, on a fait une évaluation. L'espèce envahissante qui impacte le plus grand nombre d'espèces menacées aujourd'hui, c'est le chat. Le chat domestique, enfin, qui est plus domestique, qu'on a introduit et qui se retrouve au milieu d'espèces absolument sans défense et qui fait un carnage. Il y a des souris, des rats, ainsi de suite.
Donc, dans les îles, parce que ce sont des milieux plus clos, donc avec des écosystèmes plus fragiles.
Oui, et puis parce que
des espèces endémiques.
Il y a des espèces qui ont vécu pendant des millions d'années sans prédateurs et d'un seul coup, c'est des animaux qui sont sans défense. On a dans notre dernière mise à jour de la liste rouge, on a mis en avant les plantes hawaïennes. Les plantes hawaïennes, ce sont des plantes qui ont évolué sans mécanisme de défense. Il n'y a pas de mammifères pratiquement à Hawaï. Il y a juste une petite chauve-souris. Donc c'est des plantes qui n'ont pas d'épines, qui sont appétantes, qui n'ont pas, au fil de l'évolution, qui n'ont pas développé ces mécanismes de défense. Quand on a introduit des moutons, des cochons, des vaches, des chèvres, elles ont fait un festin. Et aujourd'hui, on a la moitié des
plantes hawaïennes qui sont menacées.
Ah, on vient de récupérer le duplex, j'ai l'impression, depuis Lausanne. Vous allez pouvoir quitter votre téléphone, ce sera plus confortable pour vous. Gilles Boeuf, ce qu'il faut dire, ce qui est intéressant aussi à ce titre, c'est que la France fait partie des 10 nations qui habitent le plus d'espèces menacées. Au sixième rang, c'est le rapport de l'UICN qu'il note, derrière l'Équateur, la Malaisie, les États-Unis, l'Indonésie et le Mexique. Je découvre donc que la France a une richesse de biodiversité très importante.
Surtout par nos territoires outre-mer, bien entendu. On oublie de dire que 80%, on dit la biodiversité, j'aime pas trop ça, mais 80% des espèces connues sur des territoires français ne sont pas dans la France hexagonale, la métropole que nous connaissons. Et effectivement, on revient au problème des îles. Pour revenir au chat, le chat est un problème majeur aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Hein, vraiment un problème, parce que dans les villes, il mange comme les chats classiques, parce qu'il peut trouver des souris. Dans ces forêts, quand il est reparti dans la nature dite sauvage, entre guillemets, il mange des geckos endémiques, il mange des oiseaux qui n'ont pas d'ailes, donc ils ne peuvent pas lui échapper. On raconte toujours l'histoire d'un seul chat sur l'île Rodrigue, qui était le chat du gardien de phare, qui a lui tout seul, non pas l'espèce chat, mais un chat, il a fait disparaître une espèce d'oiseau qui ne volait pas, à lui tout seul. Donc c'est vrai que là, on a des confrontations qui n'auraient jamais dû se produire. L'invasion des Galapagos, à l'île de Pâques aussi, puisqu'on prend des territoires insulaires très très menacés aujourd'hui, tout a été détruit par des introductions de ce type. Hein. Tout à l'heure, notre ami parlait effectivement des chèvres, c'est extrêmement impactant. Le rat a toujours été un accompagnateur de l'humain. Hein. Aujourd'hui, on arrive à faire des typages génétiques, on a fait un très beau travail sur l'île de Madère, par exemple, où on se rend compte que des rats introduits par des navigateurs, ils nageaient pas, l'île est trop loin de la côte, sur ce volcan qui sort un jour de la mer, et on a pu typer les rats, les souris, de chaque vallée, en fait, de Madère, parce qu'elles sont très aiguës, et ces petits mammifères ne passent pas de l'un à l'autre. Et on a retrouvé des souris portugaises, ça c'est normal, on parle portugais, mais récemment des souris danoises, alors qu'on n'a aucun vestige archéologique qui montre que les Vikings sont arrivés un jour à Madère.
D'accord. Est-ce que, pour conclure, parce qu'on va parler aussi de la protection, des zones protégées et des efforts de protection, Il y a tout de même quelque chose, dès qu'on parle de biodiversité, qui est, et Jean-Christophe Vier, vous en parliez tout à l'heure, en essayant de donner des bonnes nouvelles et de montrer qu'il y a des actions de conservation et de protection qui peuvent avoir des conséquences, parce que le reste du temps, on est effectivement face à un discours souvent alarmiste, souvent déploratif, et on se dit que, est-ce que ce discours-là, concernant la protection de la biodiversité, est encore opérant ? Est-ce que ce n'est pas devenu finalement une sorte de ritournelle qu'on a l'habitude d'entendre, à laquelle on ne prête plus attention, Jean-Christophe Vier ?
Écoutez, moi, quand j'écoute les informations, j'ai pas l'impression que le monde de la nature, de l'environnement, soit plus alarmiste que le monde général. Donc, on essaye, comme je le disais avant, de mettre en avant des bonnes nouvelles. Par contre, je pense que ça serait une erreur majeure d'occulter le problème. C'est un problème, c'est une bombe à retardement. On le sait. On a pendant longtemps, ces dernières années, on s'est réfugié derrière le climat, donc le climat a été mis en avant. On a oublié la biodiversité, donc la nature. Moi, j'aime pas trop ce terme non plus parce que ça parle pas tellement au grand public. Pour moi, la nature régresse partout. On en a besoin. C'est notre garde-manger, c'est notre pharmacie. Ça nous fournit tout ce dont on a besoin au quotidien. Ça disparaît et on sait, à mon sens, c'est aujourd'hui le problème majeur que rencontre l'humanité, et on n'arrive pas effectivement à convaincre les politiques parce que voilà, c'est caricaturé. La perte de la biodiversité est caricaturée à quelques espèces qui disparaissent par-ci par-là. On dit voilà, les adorateurs des papillons s'inquiètent. C'est pas ça, c'est vraiment quelque chose d'assez majeur qui nous frappe et qui frappe de plus en plus de gens. Ça, il y aura des problèmes de sécurité alimentaire, il y aura des problèmes. Voilà, il y aura des problèmes sans doute de réfugiés, d'exodes, parce que les gens chercheront ces ressources naturelles qu'ils auront de plus en plus de mal à trouver.
Gilles Boeuf, quand vous entendez Jean-Christophe Vier qui dit qu'on a du mal aujourd'hui à sensibiliser la classe politique, vous qui êtes conseiller scientifique auprès de la ministre de l'Environnement, vous partagez malgré tout ce point de vue de sensibilisation un peu difficile.
Oui, mais Ségolène Royal est un cas justement intéressant, puisqu'elle vient de lancer cette loi dans le cadre de la loi sur la transition écologique, qui s'appelle « Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ». Alors, ce qui m'a déjà plu, moi, c'est qu'il y a le mot « reconquête ». Pour que le monde politique dise ça, c'est-à-dire qu'il reconnaît quand même qu'on l'a abîmé quelque part. Sinon, on n'aurait pas à la reconquérir. Et on n'oublie pas dans cette loi de parler non seulement de la biodiversité, mais de la nature et des paysages. Alors déjà, il faut faire déjà une différence entre nature et biodiversité. Je le dis souvent dans mes conférences, la biodiversité, c'est la fraction vivante de la nature. Quand la Terre se crée, il y a une nature qui n'est que au départ, bien sûr, de la géologie. Hein. Il y a du vent, il y a des effondrements de terrain, il y a du volcanisme. Hein. La biodiversité commence quand la première cellule initiale apparaît dans l'océan. Il y a un papier dans Nature, là, il y a 10 jours, qui nous dit qu'on est vers à peu près 3,9 milliards d'années. Donc ce jour-là démarre la biodiversité. Donc la biodiversité, c'est la partie vivante de la nature. Ça, c'est clair. Et cette biodiversité, elle s'est façonnée à partir d'une géodiversité antérieure. Hein. On n'est pas apparu comme ça, hein. On est apparu. Nous avons tous ici dans notre sang du sodium, du potassium, hein, qui sont l'eau de mer initiale. Ça, c'est intéressant à le rappeler. Je rappelle souvent que le sang humain, bah, simplement, c'est la première eau saumâtre quand l'océan s'est mélangé, en fait, avec des eaux douces dans les estuaires ou dans les mangroves, par exemple. Hein. Et le sang humain raconte la sortie de l'océan il y a à peu près 450 millions d'années. Donc ça, c'est important de voir ces relations entre le monde minéral et le monde vivant. Et cette biodiversité a tiré parti de ceci. Aujourd'hui, le problème, c'est que l'humain... Et pourquoi on n'avance pas dans nos sociétés, et le monde politique inclus ? C'est parce qu'on n'est pas encore en train de se rendre compte que nous aussi, nous sommes la biodiversité, en fait. Hein. Mmh. Je rappelle souvent qu'un bébé humain, à la naissance, c'est 3/4 de flotte, quand même. Hein. Notre cerveau, c'est 80% d'eau. Tara Océan nous ramène à des séquences géniques du plancton océanique. Avec le corps humain, on en partage un bon tiers des mêmes séquences. Donc, il y a une union commune de la vie sur cette planète. Et je dirais que la vie marque la planète Terre, hein, à partir de l'océan, ensuite venue sur les continents. Ça, c'est fondamental. Et du jour où on va admettre que nous sommes dedans, Philippe Descola en parle souvent, ensuite, lui, en anthropologue, quand est-ce qu'on ferait une anthropologie qui ne tient pas compte que des humains, mais aussi des non-humains? Et ça, c'est vraiment, dans les solutions qu'on évoquait tout à l'heure, l'avenir très clair pour nous. Peut-être revenir à des disciplines, à des modes de pensée différents de ce qu'on avait dans nos civilisations, où, enfin, on tient compte des non-humains pour notre survie à nous aussi. Et l'anthropocène, c'est cette époque, justement, où l'humain a oublié un petit peu cela.
Mais vous avez le sentiment que vous avez une oreille favorable du côté justement de la classe politique, pas seulement du ministère, mais de la classe politique, pour casser un peu cette conception anthropocentrée de l'homme, voilà, qui a fait tant de mal à la nature et à son environnement.
Ça s'est amélioré. Regardez cette COP21 qu'on a vécue à Paris, le 12 décembre 2015, moment historique, 195 pays se mettent d'accord pour dire. D'abord, j'ai pas trouvé un seul chef d'État à l'époque qui commence encore à dire peut-être que c'est pas vrai, est-ce que l'humain a vraiment cette influence. C'est de l'arrogance de croire qu'on pourrait activer quelque chose sur le climat. Bon, terminé, basta.
Ils ont eu du mal à la signer. Hein. Comment ? Les accords de Paris, ils ont eu du mal à les signer.
À les ratifier.
À les ratifier.
Ils ont été signés à New York le 22 avril. On a du mal à les ratifier. Et c'est vrai que la Ségolène Royal se bat terriblement pour qu'on puisse, avant Marrakech, atteindre ce fameux
but. Pour la COP22 qui aura lieu en novembre.
On avait dit 55% des émissions de CO2, 55% des pays. J'espère qu'on a 39% aujourd'hui.
Oui,
là,
parce que grâce aux États-Unis et à la Chine qui viennent de signer.
Oui, alors espérons que si l'Inde vient et l'Europe vient, on va arriver aux 55%. Donc sur le monde politique, ok, ils commencent à prendre ça en compte. Ils se rendent compte que ça va lui coûter très cher. Il faut que le monde de l'entreprise aussi s'empare de ces questions-là, bien sûr.
C'est un autre problème, un vaste problème. Mais on va voir justement ce qu'on peut faire pour conserver un peu ça.
La méthode scientifique. Nicolas Martin.
Alors parmi les bonnes nouvelles, puisqu'il y en a, n'en déplaise à ce discours catastrophique que j'évoquais tout à l'heure, Barack Obama par exemple vient d'annoncer la création de deux immenses réserves naturelles marines dans le Pacifique et de l'Atlantique. J'imagine que ça réjouit l'océanologue que vous êtes, Gilles Boeuf.
Bien sûr. Et aujourd'hui, on a quand même pas mal de projets. Il y a le projet en Marquise d'une aire en plus marine éducative, donc avec la participation des enfants. Il y a les projets Île de Pâques en ce moment. Il y a le projet de Clipperton, dont on a parlé récemment.
Le Royaume-Uni, qui a annoncé jeudi dernier son intention de doubler la superficie.
Avec l'intelligence, parce qu'ils ont déjà mis en place un système de surveillance de la réalité des faits de cette zone protégée. Ça, c'est important, parce que on peut faire des belles déclarations. Si on n'a pas les moyens d'aller voir ce qui se passe, c'est un petit peu gênant quand même. Mais c'est tout à fait encourageant, ceci, oui.
Jean-Christophe Vier, pareil, vous voyez ça plutôt d'un bon œil, ces déclarations, notamment pour préserver le milieu océanologique naturel.
Oui, bien sûr, les aires protégées, c'est un outil indispensable pour la protection de la biodiversité, ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. On parlait d'engagement politique, donc tous les pays avaient pris des engagements en 2000, hein, sous l'égide de la Convention sur la diversité biologique. Ils ont renouvelé en 2010, on parle d'un objectif de 17% des terres protégées, 10% des océans. D'aujourd'hui, on en est bien loin encore, parce que toutes les grandes zones qui sont annoncées sont dans les zones d'exclusion économique, exclusives.
Il reste
tout le domaine de la... Donc, ce sont les zones qui sont sous l'autorité des États, donc dans la frange des 200 000 nautiques. Donc, c'est bien, hein, parce que c'est là qu'il y a une grosse biodiversité. Certains pays font, alors on parle de l'annonce américaine, évidemment, qui a été annoncée quand on avait notre congrès à Hawaï par le président Obama. Au même moment, il y avait le président de Palau, qui est un petit État du Pacifique, qui disait, lui, il avait 60% de sa zone économique exclusive sous protection. Et quand on sait que les États-Unis ou la France, c'est le deuxième espace maritime mondial après celui des États-Unis. Donc là, il y a des marges de progression qui sont relativement considérables. Et il y a tout le problème de la haute mer qui échappe encore, malheureusement, à toute forme de juridiction. Donc il y a des bras de fer dans tous les sens, des bras de fer politiques. Qui paralyse un petit peu tous les efforts, mais bien sûr que ça va dans le bon sens. Et après, comme le disait Gilles Boeuf, il y a beaucoup d'aires protégées qui sont des aires protégées encore sur papier. Donc ces nouvelles aires dont on vient de parler, elles sont encore pas opérationnelles. Elles le seront, je sais pas quand, mais c'est quand même une bonne avancée. Mais il faut que ça avance vite et que le nombre augmente rapidement si on veut avoir un impact significatif.
Mais puisqu'on parle des aires protégées, eh bien nous avons envoyé une partie de l'équipe de la méthode scientifique en sortie nature. Bonjour Antoine Beauchamp.
Bonjour Nicolas. Bonjour à tous.
Vous êtes justement rendu dans une réserve naturelle avec Léo Quentin, dans la réserve naturelle de Saint-Quentin en Yvelines. On aurait voulu le faire exprès, on n'a pas réussi.
Et oui, je dois dire qu'on a été enchanté par les observations de tous ces oiseaux qu'on ne voit pas du tout en ville. Du chevalier guignette à la petite mouette pygmée, très jolie mouette blanche, en passant par le busard des roseaux, on a été vraiment chanceux de pouvoir observer des oiseaux rares. Il faut savoir qu'en 13 ans, l'Île-de-France a perdu un cinquième de ses oiseaux, avec la disparition galopante de leur refuge habituel, que ce soit les haies, les bosquets, les mares ou autres.
Et face à la disparition de ces espaces naturels, Antoine, dont on parlait tout à l'heure avec Gilles Boeuf et Jean-Christophe Vier, eh bien, ce sont donc les réserves qui prennent leur lait.
Oui, entre autres. Des réserves avec des zones humides, comme celle de Saint-Quentin, permettent à certaines espèces de trouver un habitat permanent ou bien temporaire, le temps de l'hiver ou des escales migratoires. On a donc rencontré dans cette réserve Johanna Anglade-Garnier, qui est la conservatrice de la réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. En sa qualité d'agent de la police de l'environnement, elle nous a expliqué le fonctionnement et les règles qui s'imposent dans la réserve. On a aussi rencontré Maxime Zucca, un naturaliste, ornithologue pour Nature Parif, l'agence régionale pour la nature et la biodiversité en Île-de-France. Il a été notre professeur d'ornithologie le temps d'un après-midi. Donc tout de suite, je vous propose qu'on baisse un peu la voix parce qu'on approche de la zone d'observation.
Vous allez visiter la réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle est connue pour être un site ornithologique. Donc il est très connu des initiés. Ils savent qu'ici, on peut facilement observer des oiseaux toute l'année. Et donc cette réserve, elle a été créée il y a 30 ans maintenant. Et donc ça fait 30 ans que ce site est voué à la protection des milieux naturels et à l'accueil de ces oiseaux.
Pourquoi les oiseaux se trouvent bien ici? Qu'est-ce qu'ils y trouvent en particulier?
Alors, ils s'y trouvent bien déjà parce que l'étang de Saint-Quentin et tout ce réseau d'étangs sont des surfaces d'eau parmi les plus importantes en Île-de-France. Donc déjà, ils la repèrent. Ensuite, on est sur un parcours de migration, donc de fait, voilà, ils s'arrêtent. Une fois qu'ils s'arrêtent, ils y trouvent refuge, tranquillité, nourriture. Donc les oiseaux s'y arrêtent soit en escale pendant les périodes de migration, au printemps ou à l'automne, soit ils s'y arrêtent pour se reproduire, donc ils font leur nid, voilà. Soit ils passent l'hiver.
Voilà. Est-ce qu'il y a des espèces rares d'oiseaux qui s'arrêtent ici ?
Oui, il y a beaucoup d'espèces rares. On n'est pas loin des 250 espèces vues depuis 30 ans. Les espèces rares que leurs ornithologues aiment bien venir voir ici, ce sont le groupe des limicoles, par exemple. Donc les chevaliers cul blanc, gambette, guignette, garzette. Voilà, ils viennent tous. En fait, ils ont des grandes pattes et un grand bec et ils se nourrissent des petits animaux qu'ils trouvent dans la vase. Et en fait, c'est assez rare juste d'avoir un étang qui a un niveau d'eau qui fluctue dans l'année. Cette réserve a la particularité d'accueillir le public depuis le tout début. Mais effectivement, il faut pouvoir découvrir les oiseaux sans les déranger. Donc toutes les infrastructures d'accueil sont prévues pour se faire tout petit. Donc vous êtes sur un sentier, vous êtes encadré par un animateur, vous vous cachez dans des observatoires, vous devez adapter votre comportement d'observation sans nuire aux oiseaux qui sont présents et à la faune en général. Donc toute cette éducation, on l'apporte depuis 30 ans sur le terrain. Et le fait est que ça fonctionne, mais effectivement, le nombre d'entrées dans la réserve est limité à l'année. La principale menace, c'est la pollution de l'eau, la ressource en eau, le dérangement, l'urbanisation, ce qui est en lien avec la pollution de l'eau. C'est vraiment urgent que les collectivités locales en fait, s'approprient la protection de la réserve et fassent leur travail à leur niveau. Quoi.
Je m'appelle Maxime Zucca, je suis chargé de mission naturaliste à Nature Parif, qui est l'agence régionale pour la biodiversité en Île-de-France. Mon travail, c'est de centraliser toutes les connaissances naturalistes et de faire parler ces données ensuite, avec mes collègues d'ailleurs, je ne suis pas tout seul à le faire, pour évaluer l'état de santé de la biodiversité dans notre région. On vient de sortir un bilan cette année des 15 dernières années à peu près, et pour les oiseaux, on se rend compte qu'on a perdu un cinquième des oiseaux, toutes espèces confondues. Donc en gros, il y a un oiseau sur cinq en moins quand on se promène par rapport à il y a 15 ans, il y a 13 ans même, dans la campagne ou dans la ville en Île-de-France. Les gens, dès lors qu'ils sont un petit peu plus passionnés, captivés par la nature qui les entoure, ils en prennent beaucoup plus soin. Donc c'est le premier rôle des réserves. Le second rôle des réserves, évidemment, ça va être quand même de protéger une ou deux espèces patrimoniales qu'on trouve que là ou presque que là. Et donc à Saint-Quentin-en-Yvelines, par exemple, ça va être les oiseaux d'eau, notamment. Donc là, ça, c'est vraiment un rôle de réservoir de biodiversité. En Île-de-France, on a 15 réserves naturelles. Saint-Quentin, c'est l'une des principales, l'une des plus anciennes. Évidemment, elle va jouer aussi un rôle en termes d'études, notamment par le bagage des oiseaux, par exemple, par les comptages d'oiseaux d'eau réguliers, pour mieux comprendre les oiseaux qui transitent à travers la région, mieux suivre pour faire des suivis réguliers des libellules, des poissons, un petit peu tout qu'on ne va pas trouver ailleurs. Donc c'est vraiment l'un des rôles aussi principaux des réserves.
Et là, on arrive dans la zone de silence, donc on va garder le silence.
Tout à fait. Parce que là, on s'approche vraiment de l'étang. C'est juste de l'autre côté, donc... Donc ça c'est un des deux observatoires le long du sentier qui fait 1,8 km à peu près. Ouais, ça fait une...
Dommage qu'il n'y ait pas ça. Alors là, c'est une longue vue, donc ça grossit jusqu'à 60 fois. En général, on utilise plutôt le grossissement 20, 30 fois, ça suffit. Donc c'est sur trépied, c'est un petit peu lourd, mais c'est indispensable. C'est vraiment l'accessoire indispensable d'un ornithologue. En tout cas, lorsqu'on observe comme ça sur des zones humides au loin. Mais sinon, on a toujours une paire de jumelles sur nous. Là, toutes les étendues de roseaux que vous avez le long de la ceinture, le long de l'étang, ça fait partie des plus grandes roselières d'Île-de-France. C'est un milieu dans lequel vont s'arrêter beaucoup de rousserolles, de petites fauvettes aquatiques comme ça, des phragmites, en route pour l'Afrique. Et il y a un vrai enjeu de conservation des roselières en Île-de-France. C'est aussi la niche des petits hérons comme le blongios nain qui sont menacés chez nous, dans toute la France aussi. On va avoir du butor étoilé en hivernage ici, pareil, un oiseau qui a disparu d'Île-de-France en tant que nicheur récemment, mais qui continue de venir hiverner. Donc il y a un vrai enjeu de préservation de ces roselières et du coup, associé à cela, un enjeu de maîtrise des niveaux d'eau par la réserve.
Voilà, t'as un buzzard des roseaux, Audrey. Ouais.
T'as une migre de malade derrière le buzzard.
Dis donc, c'est des hirondelles surtout.
Ouais, carrément. Ouais.
Tout se croise là.
Exactement. Bah là, on est en pleine période des migrations. Tous les oiseaux transsahariens repartent en Afrique en ce moment, et notamment les hirondelles. Là, à la fin du mois, on n'en aura plus. Elles vont toutes passer la Méditerranée. Et le buzzard des roseaux aussi, d'ailleurs, va hiverner, il va traverser le Sahara, il va hiverner en Afrique de l'Ouest.
Putain, c'est
clair, ça. Voilà, ouais, il y a le canard chipot, troisième espèce de canard migrateur. Lui, il vient principalement hiverner chez nous. Il niche quasiment pas. Il a déjà niché ici, mais c'est un oiseau qui niche plutôt en Russie, en Europe de l'Est, en Scandinavie. Celui-ci, ses effectifs augmentent. On en a de plus en plus en hiver. Ça a été multiplié par 10 au cours des 20 dernières années, donc c'est une augmentation spectaculaire. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles, heureusement. Globalement, les oiseaux d'eau sont assez bien protégés maintenant parce que c'est là-dessus qu'on a accès à la conservation en France. Une grande partie des réserves ont été créées dans des milieux humides récemment. Bon, ça ne vient pas non plus contrecarrer le fait qu'on ait perdu la moitié des zones humides au cours du dernier demi-siècle. Mais malgré tout, c'est là qu'on observe à nouveau des espèces qui réaugmentent. Ça, plus un meilleur contrôle des activités de chasse notamment. Par contre, c'est au niveau des oiseaux communs, des oiseaux qu'on voit partout, dans tous les milieux. Et notamment dans les milieux agricoles qui constituent l'essentiel de notre territoire, qu'on a une baisse drastique de presque toutes les espèces.
Voilà Maxime Zucquin qui confirme ce que nous disait Gilles Boeuf tout à l'heure. Dans les milieux agricoles, c'est là qu'on constate la plus grande baisse des espèces. Gilles Boeuf, vous voyez sourire à l'évocation de tous ces noms d'oiseaux, etc. Tout ça, c'est un
oui, parce que bon, d'abord, j'adore ces naturalistes de terrain, hein, tout ce tissu français qui a contribué d'ailleurs à créer ce qu'on appelle les atlas régionaux de chaque ville, communaux de la biodiversité, qui avait été lancé à l'époque, hein, en 2010, l'année mondiale de la biodiversité, joue un rôle essentiel dans l'éducation, dans la représentation, dans le combat perpétuel, hein, contre tout ce qui peut arriver aujourd'hui. Alors je préside moi-même une réserve naturelle qui est dans les Pyrénées-Orientales, qui est le plus haut point chaud d'Europe, hein, une petite forêt qui s'appelle la forêt de la Massane, au-dessus d'Argelès-sur-Mer, 337 hectares, 7000 espèces recensées. Il n'y a aucun équivalent en Europe. Peut-être qu'on fait, si on faisait le même travail en Croatie, on trouverait plus, mais on ne l'a pas fait encore. Et effectivement, tous ces naturalistes qui sont passés par là sont essentiels dans le tissu, justement, de représentation et de combat perpétuel pour la maintenir. C'est là que le mot conservation me gêne toujours un petit peu, parce qu'il vient de l'anglais conservation. Je préfère protection, parce que en fait, c'est pas conserver dans l'état. Il faut conserver la capacité de ces réserves, de cette nature à être capable d'évoluer avec tous les intrants aujourd'hui qui sont posés par les changements divers que nous avons en ce moment.
Jean-Christophe Vienne, réaction à ce reportage ?
C'est un petit peu ce que je disais avant, c'est que dans les bonnes nouvelles, moi, je suis pareil, c'est-à-dire que dans mes différentes activités, je m'occupe de documenter ce qui va pas à travers la liste rouge. Puis j'ai une autre activité qui consiste à financer des projets de terrain un peu partout dans le monde. Et je peux vous dire que vous avez partout dans le monde, je pense qu'il n'y a pas un seul pays où il n'y a pas des groupes de gens super motivés, super connaisseurs et qui ont envie de préserver la nature chez eux. Et je pense que c'est là que viennent les réels changements, parce que même avec des petites subventions, on ne parle pas forcément de budgets colossaux, avec des petites subventions, on arrive à avoir des résultats et des gens qui vous envoient des rapports où ils ont protégé, créé des nouvelles réserves, parler avec des villageois, impliquer des villageois dans la conservation de la nature. Alors, Voilà, je pense que c'est de là que viennent les bonnes nouvelles, parce qu'avec autant de gens motivés, alors c'est pas facile, hein, moi j'ai travaillé dans une ONG aussi, il faut savoir que ces gens-là, il faut les aider, parce qu'ils travaillent souvent sous la menace. Il faut savoir qu'il y a 1000 personnes par an à peu près qui perdent leur vie en essayant de protéger la nature, on n'en parle pas souvent, mais c'est quand même des métiers dans certaines zones qui sont des métiers à risque. Même dans nos pays protégés ou développés, parfois on subit des petits chantages, des petites chantages aux subventions, des choses comme ça. Donc c'est pas toujours facile d'être dans une ONG et de protéger la nature. Et moi je dis chapeau à tous ces gens qui sont sur le terrain, qui méritent d'être aidés.
Et il y a aussi un point que j'aimerais tout de même examiner avec vous, qui est ce qu'on appelle le paradoxe de ces réserves naturelles, puisqu'il y a quand même une augmentation continue et parfois assez spectaculaire du nombre et de l'étendue de ces zones protégées. Et pourtant, ça n'a pas d'impact immédiat. On ne voit pas refluer pour autant le recul de la biodiversité interespèce, Gilles Boeuf.
Oui, ça pose tout le débat justement sur les zones de conservation. Si vous voulez, aujourd'hui, par exemple, moi je prends le cas de ma forêt de la Massane que je connais bien, peut-être que je vais la perdre. Alors qu'on la garde comme la prunelle de nos yeux depuis 71, hein, c'est une des premières, c'est la cinquième créée en France, parce qu'il y a des changements globaux. J'ai à une encablure de la forêt 15 000 poids lourds qui viennent de Barcelone et qui viennent de la péninsule ibérique sur la France et qui amènent de l'ozone sur la forêt. On a subi de plein fouet la terrible canicule de 2003, les sécheresses répétées depuis 2006. Ce qui veut dire que la zone protégée, c'est indispensable, mais on peut très bien aller perdre la zone protégée pour les raisons de changement globaux. Et c'est là qu'il y a tout le subtil équilibre entre le local, elle est d'abord locale, la biodiversité, c'est mon jardin, c'est ma forêt, c'est mon champ, c'est ma mare, et puis le global, avec tout ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc on parle de global, nous, hein, pour comment passer du local au global dans les deux sens. Et alors, globalement, c'est indispensable, le drame, c'est qu'elles sont morcelées, en fait. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup venu à ces idées de corridors, de relations entre les réserves naturelles, pour qu'on laisse le vivant les trames vertes et bleues lancées en France. Très compliqué, hein, pour le monde agricole, c'est vraiment un casse-tête. Comment est-ce qu'on permet à une forêt de communiquer avec une autre? Sinon, on arrive à des problèmes d'insularité. Hein, une forêt avec des oiseaux en région parisienne, c'est une île. On peut mettre des modèles d'écologie d'île sur des choses comme ça. Donc c'est pour ça, en fait, que dans un système global... Puis on me dit souvent aussi, allez, monsieur le professeur, on vous fait une réserve. Impeccable. Et puis, laissez-nous faire jouer à n'importe quoi ailleurs. Ça marche pas.
Jean-Christophe Vier, vous partagez cette analyse, et c'est ça qui explique ce paradoxe, hein, de l'augmentation des zones de réserves naturelles et pourtant de la poursuite de l'augmentation des risques concernant la biodiversité.
Il y a des zones sur le globe où, hors des aires protégées, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est une réalité. Il n'y aurait pas ces aires protégées, il n'y aurait plus de nature, plus de biodiversité. Donc c'est des outils importants. Néanmoins, les menaces ne s'arrêtent pas aux frontières de ces aires protégées. Dans certaines zones, elles sont très grandes. Prenez le Kruger en Afrique du Sud. Le parc Kruger, c'est quand même une zone immense. Ou le Selous en Tanzanie. Ce sont des zones qui ont connu des intensités de braconnage sans précédent, avec quand même des moyens. Ce ne sont pas des zones qui sont complètement négligées. Donc c'est des zones où il y a des touristes, c'est des zones qui rapportent de l'argent. Et voilà, donc il y a des menaces, en l'occurrence c'était les braconniers, des gangs armés qui ont réussi à éradiquer les éléphants du Selou. Ils n'ont pas éradiqué, mais ils ont tué quand même des milliers, les rhinocéros au Kruger. Donc voilà, les espèces envahissantes, les changements climatiques, ça s'arrête pas aux frontières où la pollution s'arrête pas aux frontières des aires protégées. Donc il y a impératif de mettre ces aires protégées en réseau, de protéger, favoriser toujours les migrations, les échanges. Donc il y a des politiques, nous on va dans ce sens-là, c'est-à-dire que l'idée c'est de pas de créer, comme on le faisait par le passé, regardez les parcs nationaux en France, beaucoup étaient dans les montagnes, sur les bordures, parce qu'en gros c'est là qu'il y avait un peu de place, quoi, où il n'y avait pas d'exploitation agricole possible. Ils ne sont pas forcément, ces zones protégées, ces parcs et ces réserves, dans les zones où il y a la plus grande biodiversité. Alors une partie de notre travail c'est d'identifier aussi ces zones qui sont particulièrement riches, que l'Europe fait, avec son réseau Natura 2000, mais ça se fait partout dans le monde, et c'est trouver toutes les zones clés pour la biodiversité, et de pas en faire des îlots complètement indépendants les uns des autres. Il faut qu'il y ait une continuité, il faut qu'il y ait une fluidité, que les espèces puissent échanger.
I close my eyes till I see neon jungles, and suddenly everything's green around me. I close my eyes till there's no one around, every face that I've known simply gone, long gone, when out of sight. restrained as I throw myself blinded, and while they will take me places out in the blue morning, planets in bloom, oh, they're dawning and reasonable speed and grace when out of sight.
Méthode scientifique, Nicolas Martin.
Il est déjà 16h45 dans la méthode scientifique sur France Culture. C'était Nature Will Remain, la nature restera, du groupe The Do, le choix de notre réalisatrice Elisabeth Miro et de toute l'équipe pour porter un peu ce message optimiste. La nature triomphera à la fin. Nous sommes toujours avec Gilles Boeuf, biologiste, océanographe, conseiller scientifique pour la biodiversité et le climat auprès de la ministre de l'Environnement. Et nous sommes en duplex depuis Lausanne avec Jean-Christophe Vier, directeur adjoint du programme mondial des espèces de l'UICN. Alors parlons donc des solutions pour prolonger ce message optimiste, à commencer en France par cette agence de la biodiversité. Je me retourne vers vous, Gilles Boeuf, qui doit ouvrir officiellement le 1er janvier prochain.
Oui, c'est ça. Oui.
Alors quels sont les périmètres de cette agence? Quel est son rôle? Quel est son budget? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire?
On y a mis beaucoup d'espoir. Alors après, évidemment, entre la belle idée et la réalisation, c'est toujours compliqué, parce qu'il faut tenir compte de tout ce qui existe dans le système. Donc là, on a décidé d'y mettre des organismes dès le départ. Bon, on pourrait discuter longtemps de ceux qui auraient dû y être, qui n'y sont pas, de ceux qui y sont. Bon. La question, c'est effectivement, dès le départ, à quoi ça va servir? Ça va servir à une chose très claire pour moi, c'est qu'on ne fera plus aucun projet dans ce pays, quel qu'il soit, sans tenir compte de l'impact sur la biodiversité. Pour moi, le premier rôle, c'est de développer une culture de l'impact. Je fais quelque chose, quelle va être l'influence sur l'évolution des milieux et de la biodiversité? C'est aussi un gros rôle éducatif. Il va falloir que l'agence, effectivement, revienne à ce qu'on a dit depuis le départ. C'est quoi la biodiversité? Pourquoi il faut qu'on s'en préoccupe? Dans quelles conditions? C'est très important. Ça va être aussi d'organiser un petit peu la recherche scientifique. Il y aura un conseil scientifique, avec déjà le conseil scientifique du CSPNB, le conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité, avec le conseil scientifique de la Fondation de recherche pour la biodiversité. Là, il y a un groupe de chercheurs. La France a un très très bon niveau d'écologues sur ces questions-là, il faut bien le dire. Hein. C'est une très belle école d'écologie, la France, sur ces questions-là. Aujourd'hui, on n'est pas du tout loin dans le système. Hein. C'est une des meilleures au monde. Alors après, bien sûr, on va être face à des questions évidentes de cohabitation entre tous les acteurs du système. C'est comment, par exemple, aujourd'hui, des scientifiques vont-ils discuter avec des organisateurs, avec des utilisateurs de la biodiversité, avec des agriculteurs, avec des chasseurs, avec des pêcheurs, avec des gens qui en vivent tous les jours. Et là, on verra la relation avec les peuples autochtones sur l'Afrique, sur l'Amérique latine, sur l'Asie, où vous avez des civilisations qui vivent beaucoup plus sur cette biodiversité que nous, aujourd'hui, qu'ils l'avons oublié parce qu'on cultive, bien sûr, et qu'on récolte. Donc c'est ça, ce but, il est là, il est ambitieux, mais j'espère qu'on arrivera à quelque chose. Les moyens ne sont pas au niveau de ce qu'on aurait bien aimé avoir, ça c'est clair.
Jean-Christophe Vier, quel regard vous portez, vous, depuis Lausanne, sur cette agence de la biodiversité française? C'est un vecteur d'espoir, ou est-ce que c'est une nouvelle agence avec une surcouche d'administration qui va finalement pas changer grand-chose, si on regarde ça du côté moins optimiste?
Moi, je suis français, mais j'ai essentiellement travaillé à l'international, donc je fais ça un petit peu à distance. Alors, il y a quand même un son de cloche qui émerge, j'ai vu des études là-dessus qui montrent qu'il n'y a pas forcément une relation entre l'impact sur la biodiversité et le nombre de structures et d'empilement de structures qu'on peut bien vouloir créer. Bien souvent, on a d'ailleurs dans le commerce illégal, de plus en plus on privilégie le travail avec les communautés plutôt qu'un travail dirigé par l'État de gardiennage intense et ainsi de suite. Donc
le commerce illégal, vous parlez du commerce illégal d'espèces protégées.
Oui, ou d'espèces tout court, par exemple. Donc il y a différentes approches. Je connais pas tout le fondement de l'agence, donc je regarde et je suis avec intérêt. Moi, je pense que c'est pas c'est pas une structure qui va changer grand chose. Alors ça va peut-être permettre de faire des économies d'échelle, dégager des moyens, c'est ce que j'espère, d'avoir plus d'impact parce que c'est nécessaire, peut-être mieux structurer le travail de la France. Il faut savoir que la France et moi je m'aperçois de ça en travaillant partout dans le monde, la France est quand même a perdu avait un rayonnement dans une grande partie du monde, dans une grande partie de l'Afrique, Madagascar, en Asie. La France et les scientifiques français ont complètement disparu. C'est un milieu qui est pratiquement exclusivement anglo-saxon. Vous allez même à Madagascar, où j'étais il n'y a pas longtemps, maintenant, ce sont quand même des scientifiques qui sont essentiellement anglo-saxons. Et la première chose qu'ils font, ils apprennent à parler anglais aux malgaches. Donc, je pense que si ça peut permettre aux institutions françaises de se ressaisir un peu, tant mieux. Voilà, ça serait une chose qui serait non plus pas mal.
Vous faites faire la grimace un peu à Gilbert.
Moi, je suis pas d'accord.
Sur cette question des scientifiques français.
Le muséum, c'est 1000 personnes en recherche. Il y a des universités en France, il y a des labos du CNRS, de l'IRD, qui travaillent à l'extérieur. L'IRD travaille entièrement à l'extérieur. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a des écoles anglo-saxonnes, je l'ai vu en Namibie, je le vois au Botswana, mais la France est quand même présente dans les idées de base de ce qu'est un écosystème et sur l'écologie générale. Il faut qu'on travaille là-dessus. Alors après, effectivement, on n'a plus les moyens d'entretenir des labos de terrain comme on le faisait. Sur Madagascar, je suis entièrement d'accord sur le fait que s'il n'y avait pas eu d'ONG, on n'aurait plus de lémuriens. Hein. On connaît 109 espèces de lémuriens, elles sont quasi tous effectivement en danger de disparition, tout simplement parce qu'ils n'ont plus d'écosystème. Hein. On parle du bois de rose, aujourd'hui à Madagascar, il n'est plus que dans des réserves, il s'exporte quand même effectivement vers l'Asie. Donc il y a des vraies questions politiques, mais il faut que le scientifique prenne sa place dans tout ça, avec des vrais débats, avec les anglo-saxons par exemple, sur l'approche de la chasse. Hein, est-ce qu'effectivement on peut imaginer une chasse d'espèces qui sont rares pour alimenter des bases financières qui serviraient à protéger le reste. Ça pose pour moi des questions éthiques.
Hubert Rive, c'est un bon choix pour prendre la direction de cet institut, Gilbeuf?
Hubert Rive va être le président honoraire de l'agence. C'est quelqu'un qui s'est toujours battu, en fait. Hein. Plus, c'est un astrophysicien. On ne peut pas l'accuser. Hein, de...
Justement, est-ce qu'il n'aurait pas fallu prendre quelqu'un naturaliste?
Si, mais c'est possible. De toute façon, il y aura un président de l'agence. Hein. C'est Christophe Obel qui est le directeur, qui est un vrai naturaliste. Il vient d'Humanité et Biodiversité. Hubert Rive est une image emblématique, comme l'Edgar Morin, que j'utilise dans le bon sens du terme, dans ce livre qui sort au début octobre, qui s'appelle « Comment écologiser l'humain ?» La vraie question, elle est là, en fait.
Je voudrais qu'on dise un mot, peut-être aussi rapidement, avant de parler de la science participative, parce que j'y tiens et c'est important, mais je voudrais qu'on dise tout de même peut-être un petit mot de cette loi sur la biodiversité qui a été adoptée cet été. Il y a un article qui a fait débat, il s'agit de l'article 33 qui organise la compensation de la disparition d'un site riche en biodiversité par la restauration d'un autre ou par l'achat d'unités de compensation. Est-ce que c'est vraiment très très bien inspiré de monétiser comme ça la conservation des zones protégées, Gilbeuf?
Moi, en écologue, je reste toujours sceptique. Est-ce que la destruction d'une mare à batracien intéressant à Lille va être compensée par la réintroduction de moutons dans la plaine de l'Acro?
Oui, ou par l'achat d'unités de compensation, une fois de
voilà,
plus.
Voilà, donc... Disons que pour moi, si jamais on fait ça, ça doit être que très transitoire. Hein. Il faut vraiment faire tout pour qu'on évite de détruire, ça c'est clair, hein, ou qu'on réduise l'impact. Hein. Compenser, ça vient déjà un petit peu tard et on a baissé les bras. C'est mieux que rien du tout, mais pour moi, c'est quand même pas la panacée pour un écologue.
Hein. Jean-Christophe Vier, qu'est-ce que vous en pensez de ces unités de compensation, de la monétisation de la biodiversité? On peut racheter ce qu'on a détruit?
Bon, on a toute une politique, vous savez, l'UICN organise énormément de discussions sur tous ces thèmes qui sont un petit peu sensibles. On parlait de la chasse aux trophées tout à l'heure, les systèmes de compensation s'en fait partie, donc c'est difficile d'arriver à un consensus. C'est sûr qu'il y a cette trilogie qui est d'éviter, de réduire l'impact, de compenser, donc compenser c'est en dernier recours. Mais moi je vais vous donner un exemple pratique. Dans les années 90, je travaillais en Guyane française, où d'ailleurs j'avais aussi créé une ONG, et je travaillais sur un barrage qui a été créé, et dans les années 90, je disais, mais c'est pas possible, on va faire quelque chose pour compenser ce dommage. Et rien n'a été fait, c'est-à-dire que toute la zone, tout ce qui aurait été possible de protéger en périphérie de ce barrage, qui faisait quand même 300 km² de forêt, rien n'a été fait et tout a été perdu, a été livré au pillage. Et là, je trouve que c'est un exemple assez criant où la France se targue d'avoir d'une loi biodiversité qui date de 1976. Mais là, c'était dans les années 90. rien n'était fait. Et moi, j'ai juste regretté que, voilà, qu'il n'y ait pas une zone protégée autour de ces 300 km² de retenue d'eau, ben voilà, pour sécuriser les recherches qui avaient été faites quand même par le muséum ou par mon équipe à ce moment-là. Et je trouve que c'était un petit peu dommage. C'était un contexte particulier, ponctuel, comme vient de le dire Gilles Boeuf, sur lequel ça aurait dû se faire. Alors aujourd'hui, on en parle. Aujourd'hui, je pense qu'on les mettrait en avant, ces mesures compensatoires. À l'époque, on m'a gentiment dit que c'était pas un sujet qu'on abordait.
Pour conclure cette émission, dans les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais effectivement qu'on dise tout de même aussi des initiatives positives, qu'on dise un mot de ces initiatives, et notamment de la science participative qui vous tient à cœur, Gilles Boeuf. Qu'est-ce que c'est que la science participative ?
C'est le fait, en fait, de mettre en connexion des citoyens, lambda, n'importe qui, hein, vous, que le dentiste d'à côté, le mécanicien... le chaudronnier avec des scientifiques. Ça veut dire qu'il y a le mot science dedans, il faut être clair. Donc il faut qu'on se mette d'accord sur un protocole scientifique, sinon c'est pas de la science. Participatif, c'est que scientifiques et citoyens se liguent dans le bon sens du terme pour travailler en commun. Ce que j'aime beaucoup dans ces sciences participatives, c'est que elles peuvent être initiées par des citoyens qui viennent voir des chercheurs. Et à l'inverse aussi, un chercheur peut aller chercher des participatifs. Par rapport à nous, ils sont partout et tout le temps, comme je le dis souvent, parce que c'est des passionnés. On revient à ces gens de tout à l'heure. Ce sont eux qui ont lancé, qui sont le terreau des sciences participatives.
Pour donner un exemple aux gens, ça peut être juste observer son jardin en hiver pour regarder quels sont les oiseaux qui passent.
Spipole, c'est 20 minutes avec un appareil photo, on photographie tout ce qui se pose sur une fleur. Il y a la fleur elle-même qui est intéressante. Et qu'est-ce qui vient butiner la fleur en 20 minutes? Et ça a amené des données extrêmement intéressantes. Hein. Et c'est vrai que, par exemple, on a publié un superbe papier dans Nature, donc c'est pas une blague hein, pour la science. C'est en janvier 2012, où on montre grâce à 10 000 participatifs, 1,5 million d'heures d'observation, que nos oiseaux, en 18 ans, avaient fait 33 km vers le nord et des papillons 114. Très joli résultat. Super robuste scientifiquement.
Et la France est le troisième pays européen avec le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Ça aussi, c'est encourageant pour vous, Jean-Christophe Vier?
Oui, mais ça, c'est quelque chose... On le découvre parce qu'on l'applique à nombreux groupes d'espèces maintenant, mais c'est les ornithologues font ça depuis très très longtemps. On a réussi à collecter tous ces incroyables données avec des réseaux participatif, alors organisé. Il y a en France Noé qui a fait ça avec le muséum, a fait l'observatoire des papillons. Il y a eu un intérêt majeur de la population. Donc des milliers de personnes ont commencé à compter les papillons. Et Dieu sait s'il y a besoin parce qu'ils souffrent beaucoup ces temps-ci. Nous, on essaye de croiser les données avec des grandes bases de données mondiales, avec la liste rouge. Alors, parfois, vous avez des données, ça demande un petit peu vérification. Vous pouvez pas toujours tout prendre pour argent comptant. Il faut pouvoir traiter les données, être sûr de l'identité.
C'est ce qu'on fait.
Mais il y a quand même quelque chose de très valable, de très précieux qu'on peut utiliser. Alors, avec les outils technologiques aujourd'hui, bah effectivement, ça serait dommage de s'en passer.
Ça veut dire que quand les États ne peuvent pas prendre le relais, soit au niveau international, soit en empilant, comme vous le disiez, Jean-Christophe Vier, des surcouches d'agences étatiques, finalement, la préservation de la biodiversité, c'est une responsabilité individuelle?
Ah ben oui, je pense que le principal problème aujourd'hui, c'est d'arriver à convaincre les gens, c'est important, à convaincre que c'est magnifique déjà. Je pense que on a perdu ce lien avec le vivant, donc les gens ont peur maintenant de la nature. Moi, je le vois quand j'amène des gens avec moi, ils ont peur de tout, ils ont peur de s'éloigner de plus de 500 mètres de leur voiture et du parking. Donc voilà, je pense qu'on a besoin de recréer un petit peu cette magie, parce qu'il y a une magie. Je pense que c'est assez fantastique quand on s'intéresse. Quand on part un petit peu sur le terrain, c'est ce que font magnifiquement bien les ONG, hein, un peu partout dans le monde, d'essayer de réexpliquer, de réinitier la population générale. Alors ça se fait par les zoos souvent, parce que les zoos ont un rôle éducatif. On peut pas aimer les zoos, mais c'est un des rares endroits où vous pouvez voir des animaux. Et puis il y a quand même 700 millions de gens qui vont dans les zoos à travers le monde chaque année. Donc voilà, on cherche tous les moyens d'essayer de... Et puis on est aussi, le monde de la conservation de la nature est un monde vieillissant. Donc notre dernier congrès, un des thèmes, c'était voilà, de reconnecter avec les jeunes générations pour que pour qu'on perde pas toutes ces... qu'on continue pas de perdre plus de liens que ce qu'on a déjà perdu.
Merci beaucoup Jean-Christophe Vier. Gilles Boeuf, merci d'avoir été avec nous. Gilles Boeuf, je rappelle l'un de vos ouvrages, le dernier, Collège de France Fayard, la biodiversité de l'océan à la cité. On mettra aussi bien sûr sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr le lien vers plusieurs associations qui font de la science participative pour que les auditeurs puissent se rendre compte, aller voir par eux-mêmes. Et ainsi qu'un lien vers un projet qui nous tient à cœur, qui s'appelle Lost World. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une cartographie en vidéo à la découverte des dernières terres incognitées de la planète, un voyage captivant qu'on vous recommande chaleureusement. Ce sera sur le site de la méthode scientifique. Merci beaucoup à toute l'équipe de la RSR à Lausanne qui ont rendu ce duplex possible. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Léo Quentin, Céline Lausanne, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc à la réalisation, Elisabeth Miro à la technique, Bruno Gagnère-Fontani et au droit d'auteur Cyril Svetozevic. Demain, pour notre journée consacrée au futur, nous recevrons Antoine Borde, qui est chercheur en intelligence artificielle chez Facebook. On parlera des machines auto-apprenantes et des réseaux neuronaux artificiels. Mais il va bientôt être l'heure de votre deuxième rendez-vous de la semaine, Thérapie sous LSD, la série documentaire de Perrine Carvan consacrée cette semaine à la psychanalyse. Nous, on se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.